Je ne comprenais vraiment pas pourquoi mon père avait l'air si tourmenté. Au Japon, il était jovial. À Pékin, c'était un autre homme. Par exemple, depuis son arrivée, il multipliait les démarches pour que fût révélée la composition du gouvernement chinois. Je me demandais si cette obsession était bien sérieuse. À ses yeux, en tout cas, elle l'était. Pas de chance. À chaque fois qu'il posait cette question, les autorités chinoises répondaient que c'était un secret. Il s'insurgeait le plus poliment possible. Mais dans aucun pays du monde, on ne cache la composition du gouvernement. Argument qui ne semblait pas émouvoir les autorités chinoises. Ainsi, les diplomates postés à Pékin en étaient réduits à s'adresser à des ministres fictifs et innommés. Exercice intéressant qui nécessitait un grand sens de l'abstraction et une admirable audace spéculative. On connaît la prière de Stendhal. Mon Dieu, si vous existez, ayez pitié de mon âme si j'en ai une. Entrer en communication avec le gouvernement chinois, c'était la même chose. Mais le système en place était plus subtil que la théologie, en ceci qu'il ne cessait de dérouter par son incohérence. Ainsi, nombre de communiqués officiels contenaient ce genre de phrases. La nouvelle usine textile de la commune populaire de vient d'être inaugurée par le camarade ministre de l'Industrie, machin. Et tous les diplomates de Pékin se ruaient sur leurs équations gouvernementales à 20 inconnues et indiquaient « Le 11 septembre 1974, le ministre de l'Industrie est machin. » Le puzzle politique pouvait se compléter peu à peu, mois après mois, mais toujours avec une immense marge d'incertitude, car la composition du gouvernement était l'instabilité même. Et 2 mois plus tard, sans que l'on ait été averti de quoi que ce fût, on tombait sur un communiqué officiel disant « Suite aux déclarations du camarade ministre de l'Industrie Truc » et tout était à recommencer. Les plus mystiques se consolaient avec des considérations qui les faisaient rêver. À Pékin, nous aurons compris la nature de ce que les anciens appelaient « Deus absconditus ». Les autres allaient jouer au bridge. Je ne me souciais pas de ces choses-là, il y avait plus grave. Il y avait ce Fabrice, dont le prestige augmentait à vue d'œil et auquel Elena paraissait de moins en moins insensible. Je ne me posais pas la question de savoir ce que ce garçon avait de plus que moi. Je savais ce qu'il avait de plus que moi. Et c'était ce qui me laissait perplexe. Se pouvait-il qu'Elena ne jugeât pas cet objet ridicule? Se pouvait-il qu'elle lui trouvât du charme? Tout inclinait à le croire. À l'âge de 14 ans, j'allais changer d'opinion sur ce point, à mon grand étonnement. Mais à 7 ans, cette inclination me semblait inconcevable. J'en conclus avec effroi que ma bien-aimée avait perdu la raison. Je tentais le tout pour le tout. Prenant à part la petite Italienne, je lui glissai à l'oreille de quelle infirmité souffrait Fabrice. Elle me regarda avec une hilarité contenue, et il était clair que c'était moi et non l'objet en question qui la lui inspirait. Je compris qu'Elena était irrécupérable. Je passai la nuit à pleurer. Non parce que je ne possédais pas cet engin, mais parce que ma bien-aimée avait mauvais goût. À l'école, un professeur téméraire conçut le projet de nous faire faire autre chose que des petits avions en papier. Il réunit les 3 petites classes, et je me retrouvai donc avec Elena et sa cour. Les enfants, j'ai une idée. Nous allons tous ensemble écrire une histoire. D'emblée, cette proposition suscita ma plus grande méfiance. Mais je fus la seule à réagir de la sorte. Les autres exultaient. Que ceux qui savent écrire, écrivent chacun une histoire. Après, nous choisirons ensemble la plus belle et nous en ferons un grand livre avec des dessins. Ce projet devait donner envie aux innombrables analphabètes des petites classes d'apprendre à écrire. Tant qu'à perdre son temps, autant choisir une histoire qui me plut. Je me plongeais dans un récit torride. Une très belle princesse russe, pourquoi russe, je me le demande encore, était enterrée toute nue dans une montagne de neige. Elle avait de très longs cheveux noirs et des yeux profonds qui allaient bien avec son genre de souffrance, car le froid lui faisait endurer des douleurs abominables. Seule sa tête dépassait de la neige et elle voyait qu'il n'y avait personne pour la sauver. Longue description de ses pleurs et de ses tourments. Je jubilais. Alors arrivait une autre princesse, Dea ex machina, qui la tirait de là et entreprenait de réchauffer le corps congelé. Je défaillais de volupté à raconter comment elle s'y prenait. Je rendis ma copie avec un visage hagard. Pour des raisons mystérieuses, elle sombra dans un oubli immédiat. L'instituteur ne la mentionna même pas. Il raconta pourtant toutes les autres, dans lesquelles il était question de petits cochons, de dalmatiens, de nez qui s'allongeaient quand on mentait, bref, des scénarios qui avaient un air de déjà-vu. À ma grande honte, j'avoue avoir oublié le récit d'Héléna. Mais je n'ai pas oublié quel élève l'a emporté et par quelle démagogie il y parvint. En comparaison, une campagne électorale roumaine figurerait un modèle d'honnêteté. Fabrice, car c'était lui, évidemment, avait commis une affaire de bienfaisance. Ça se passait en Afrique. Un petit noir voyait sa famille mourir de faim et partait à la recherche de nourriture. Il allait à la ville et devenait très riche. 10 ans plus tard, il retournait au village, comblait les siens de vivres et de cadeaux et créait un hôpital. Voici comment le professeur avait présenté ce récit édifiant. J'ai gardé pour la fin l'histoire de notre ami Fabrice. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, c'est celle que je préfère. Et il avait lu la copie, qui fut saluée par des manifestations d'enthousiasme du dernier kitsch. Eh bien, je crois que nous sommes d'accord, les enfants. Je ne saurais dire à quel point cette manœuvre m'écœura. D'abord, j'avais trouvé la saga de Fabrice niaise et bêtasse. Mais c'est humanitaire, m'étais-je exclamé à part moi en l'entendant lire, avec autant de consternation qu'on eût pu dire « Mais c'est de la propagande !» Ensuite, le soutien spontané de cet adulte m'apparut d'emblée comme une garantie de médiocrité. Impression que confirma l'odieuse manipulation idéologique qui s'ensuivit. Le reste était à l'avenant. Vote par acclamation et non par scrutin, triomphe de l'à peu près dans les estimations, etc. Enfin, le clou, le visage du vainqueur qui vint sur l'estrade saluer les électeurs et exposer son projet avec plus de détails. Son sourire calme et content, sa voix crétine pour expliciter sa jolie histoire de courageux affamés. Et surtout les cris de joie unanimes de cette bande de petits imbéciles. La seule à ne pas piailler fut Héléna, mais l'air de fierté avec lequel elle regardait le héros du jour ne valait guère mieux. En vérité, que mon récit eût été escamoté m'effleurait à peine. Je n'avais d'ambition que guerrière et amoureuse. Écrire, je trouvais que c'était bon pour les autres. En revanche, que l'infâme bonasserie de ce petit ridicule récoltât un tel engouement me donnait envie de vomir. Qu'une énorme part de jalousie et de mauvaise foi se mêla à mon indignation ne contredit pas le fond de l'affaire. J'étais dégoûtée que l'on portât au nu une histoire où les bons sentiments tenaient lieu d'imagination. De ce jour, je décrétais que la littérature était un monde pourri. La machination se mit en place. Nous étions censés être 40 enfants, 3 classes, à travailler à ce projet. Je tiens à garantir que les historiographes furent 39 au maximum, car j'eusse préféré crever que contribuer si peu que ce fût à cette entreprise d'édification populaire. Si l'on exclut aussi les petits Péruviens ou autres sélénites qui avaient atterri parmi nous et qui ne pigeaient pas un mot de français, on en arrive à 34. Desquels il faut déduire les éternels suivistes muets que charrient tous les systèmes et dont le silence abrutit un lieu de participation, reste alors 20 historiographes, dont Héléna, qui ne parlait jamais pour respecter son image de sphinge, 19. Dont 9 filles amoureuses de Fabrice et qui n'ouvraient la bouche que pour approuver bruyamment les suggestions de leur idole à longs cheveux, ce qui limite l'effectif à 10. Dont 4 garçons qui avaient Fabrice pour modèle et dont l'action se borna à baiser d'extase quand il parlait, 6. Dont 1 roumain, qui, très officiel, répétait à tue-tête comment l'affaire lui plaisait et combien il aimerait y participer, ce qui fut sa seule participation. 5. Dont 2 rivaux de Fabrice, qui s'efforçaient timidement de contredire ses idées et dont les moindres interventions étaient aussitôt noyées sous les huées. 3. Dont un cas étrange qui ne s'exprimait jamais qu'en playback. 2. Dont un garçon qui se plaignait, peut-être avec sincérité, de n'avoir pas un atome d'imagination. Et voici comment mon rival écrivait tout seul notre œuvre collective. Ce qui est d'ailleurs le cas de la majorité des œuvres collectives. Et voici comment ceux qui étaient censés apprendre à lire ou à écrire par la grâce de cette stimulation n'apprirent rien. La machination prit 3 mois. En cours de processus, le professeur s'aperçut de certains vices de fonctionnement de cette entreprise de moins en moins collective. Il n'eut cependant pas à regretter son idée, car nous ne tuâmes personne en 3 mois, ce qui constituait déjà un beau succès. Un jour, il eut néanmoins un accès de colère en constatant que le caravansérail des muets s'hypertrophiait à vue d'œil. Et il ordonna que tous ceux qui ne participaient pas à l'écriture se missent à illustrer cette belle histoire. Une commission fut ainsi constituée, englobant une 20aine d'enfants qui étaient censés dessiner la geste admirable du héros. Pour des motifs obscurs, mais qui somme toute cadraient bien avec le climat joyeusement nourricier de cette fable humanitaire, le professeur décréta que nous exécuterions nos chefs-d'œuvre picturaux à l'aide de bâtonnets de pommes de terre crues trempés dans l'encre de Chine. Suggestion qui se voulait sans doute avant-gardiste et qui était surtout grotesque, d'autant qu'à Pékin, le prix des patates excédait de loin celui des pinceaux. On divisa les commissionnaires en artistes-peintres et en peleurs-découpeurs de pommes de terre. J'assurai que je n'avais aucun talent et je me joignis aux éplucheurs, où j'inaugurais en une rage secrète de multiples techniques de sabotage de patates. Tout m'était bon pour rater les bâtonnets, taillant trop fin ou de travers, allant jusqu'à manger les tubercules crus pour les faire disparaître, procédé héroïque s'il en fut. Je n'ai jamais mis les pieds dans un ministère de la culture, mais quand j'essaie de m'en faire une idée, je vois la classe de la cité des ventilateurs, avec 10 éplucheurs de pommes de terre, 10 peintres improvisant des taches sur du papier, 19 intellectuels sans utilité perceptible et un pontife écrivant tout seul une grande et noble histoire collective.